France Info.
Franck Tapiro, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes publicitaire, PDG de l'agence Hémisphère Droit. Vous avez signé les campagnes Virgin Radio, Bic avec Cantona, plein d'autres. En 88, vous occupiez de la campagne de François Mitterrand. Votre légende prétend que c'est vous qui avez inventé le slogan « Tonton, laisse pas béton ».
Absolument.
Vraiment?
Ah, c'est
pas Renault? Ou c'est vous, ou ce qu'il a dit à Renault?
Non, Renault a briefé Jacques Séguéla le matin, l'après-midi il est venu, j'ai proposé ça, mais vraiment comme une blague, j'étais tout jeune à l'époque, j'ai proposé ça comme une blague parce qu'il avait dit laisse béton dans une chanson très connue, comme tout le monde parlait de François Mitterrand comme tonton, moi j'ai dit bah voilà, on va faire un raccourci, tonton laisse pas béton, mais j'ai dit ça en rigolant, tout le monde a rigolé, et l'après-midi il a été voir le journal Le Monde, il a dit voilà, on va faire ça.
En 2007, ouais. C'est vous qui étiez l'auteur du slogan de la campagne de Sarkozy, ensemble tout devient possible. Mm-hmm. C'est dans les livres d'histoire aussi.
C'est totalement possible et ça c'est vrai.
Alors vous ne travaillez plus avec Nicolas Sarkozy, ni avec le Parti Socialiste, mais vous n'avez pas quitté la sphère politique pour autant, puisque vous êtes le cofondateur, en plus d'Hémisphère Droit, de Datacalab, qui est un laboratoire de conseil en neuromarketing. D'abord, c'est quoi le neuromarketing ?
Alors le neuromarketing utilise des outils des neurosciences, vous savez, les neurosciences qui s'intéressent au cerveau, la façon dont on a de réfléchir, de penser et surtout de ressentir. Et au moment d'un choix, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le choix n'est qu'émotion. Le choix n'est qu'une affaire d'émotion.
On pourrait penser que la neuroscience sont des fadaises, une lubie, un nouvel outil marketing qui sert à pas grand-chose, sauf que c'est la neuroscience qui, contrairement à tous les instituts de sondage aux États-Unis, avait prédit la victoire de Trump. Comment ont-ils vu ça ?
En août 2015, la société Emotion aux États-Unis a travaillé pour Fox News avec un panel et puis ils ont projeté des images de Trump pendant les primaires. Ce qui est incroyable, c'est que ces personnes-là disaient avant qu'elles n'aimaient pas Trump, que Trump leur faisait peur, que Trump les effrayait. Et pourtant, ils ont mesuré leurs émotions, ils ont vu que celui qui dégageait le plus d'émotions, à la fois négatives et positives, était Trump. C'est lui qui clivait énormément. Mais donc on a vu dès le début, moi quand ils m'ont montré leur slide, j'ai dit mais c'est quand même incroyable. Dès qu'il y a un clivage émotionnel, en général, il y a un fort ancrage mémoriel. On se souvient de quelqu'un qui clive. On se rappelle de Sarkozy, on se rappelle de d'autres personnages politiques très forts. Et quand on clive, on crée de la mémoire. Et quand on crée de la mémoire, ben quand vous comparez cette personne-là par rapport aux autres, à un moment, eh ben il a un impact supérieur aux autres. Donc Donald Trump avait un impact mémoriel et émotionnel supérieur à tous les autres candidats.
Vous avez suivi avec Datacalab le débat TF1 avec les 5 participants, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. 5 participants, 30 cobayes, expliquez le dispositif.
30 personnes représentatives des Français, Paris, province, hommes, femmes, droite, gauche, extrême et abstentionniste, face à un écran, devant le débat. Et pendant ce débat, ils sont filmés par une caméra avec un logiciel de facial coding, donc qui repère les expressions du visage et qui arrive à analyser en temps réel s'il s'agit de la joie, de la peur, de rejet, de dégoût, d'adhésion ou, pourquoi pas, de crainte. Et on l'a vu que certains candidats provoquaient toutes sortes d'émotions différentes.
Alors, quel résultat, avec un S à la fin ?
Les résultats sont assez simples. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'emporte au suffrage émotionnel global de l'ensemble du débat, parce que c'est lui qui a provoqué le plus d'émotions, étrangement positives. Il n'y a pas eu que des émotions négatives, beaucoup d'émotions positives pendant toute la durée du débat. Et c'est lui qui l'emporte devant Marine Le Pen. En 3 arrive Emmanuel Macron.
Concrètement, qu'est-ce que les candidats ont pu faire de votre étude ? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces chiffres ?
Déjà de ces chiffres, de voir à quel point provoquer des émotions était positif pour créer un ancrage mémoriel et surtout créer de l'impact, cliver. Vous savez, si vous ne clivez pas, vous n'avez aucune chance d'être élu, premièrement. Deuxièmement, voir les thématiques qui ont suscité le plus ou le moins d'émotions. Et c'est vrai qu'on a tous été déçus de voir, par exemple, que l'Europe avait suscité très peu de temps et très peu d'émotions, qu'en revanche, la place de la France dans le monde, l'immigration, le travail avaient provoqué beaucoup d'émotions, mais numéro un des émotions, et ça c'est quand même dramatique, ce sont les affaires. Les affaires ont été le sujet et la thématique qui a provoqué le plus d'émotions. Et alors qu'on pourrait dire, c'est ce qu'il y a le moins politique, et pourtant ça intéresse les gens, on voit que ça a une influence, donc il ne faut pas les sous-estimer.
Et alors ce qui m'a vraiment frappé, puisque vous en parlez, ça a duré 3h30 et les affaires ont été évoquées pendant 4-5 minutes seulement. Comment est-ce possible ?
En fait, pendant 4-5 minutes seulement par rapport à 3h30 du débat, ça montre à quel point les gens attendaient qu'on leur parle de ces affaires. Ça veut dire qu'ils étaient en hyper-émotion et en réception absolue. Ils attendaient cela, c'est pour ça qu'on a eu des pics aussi forts.
Franck Tapiro avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.